Salut à tous et bienvenue, vous écoutez Les Éclaireurs. Salut à tous, bienvenue dans les éclairages numéro 15. Pour m'accompagner pour cette heure de blabla, j'ai Azertov.
Salut.
Romain.
Bonsoir.
Matt.
Salut.
Et on a Papy Flag avec nous.
Je ne suis pas encore grand-père. Oui, bonjour. C'est Randall Flag.
Bon alors, de quoi on va causer ce soir? Azertov, tu vas nous parler de quoi?
De Romain et Gustin et Un mariage pour tous, qui est une BD.
Romain, tu vas nous parler de...
Je vais vous parler de l'adaptation par le cinéma d'Albator.
Ah, Matt.
De série avec Orphan Black et Masters of Sex.
Ouais, je connais rien de ce qui va être dit ce soir. Et Papy Flag, on va faire un truc en,
d'abord,
en binôme.
Et Papy Flag, Pépé.
Ouais, mais j'aime bien Papy Flag.
Non, c'est moche.
Bien, d'accord. Randall Flag, de quoi tu veux nous parler?
Ah, Randall Flag, c'est moi, oui, bien sûr. Eh bien, je vais parler de Hearthstone, petit jeu.
D'accord. Et je pense qu'on va pouvoir commencer avec Azertov. Attention, le jingle un petit peu spécial. Bon, c'est un peu spécial.
Ouais, c'est bien parce que j'avais bien trouvé l'idée d'une jingle avec le truc de mariage, mais pas cette version-là, c'est pas mal.
Mais ouais, mais c'est une version de Queen, ça prend tout son
bah
sens.
Oui.
C'est vrai, ça reste logique.
Alors, Azertov.
Donc, je vais vous parler de la BD Romain et Augustin, Un mariage pour tous, qui était scénarisée par Thomas Caden et dessinée principalement par Didier Garguillo et Joseph Falzo. Alors, pour cette BD, en fait, ça a été publié principalement au cours de cet été sur le Nouvel Obs, sur un blog dédié. Donc, c'était temps réel.nouvelobs.com/la-série-de-l'été avec des tirés pour chaque mot. Et ensuite, ça a été édité chez Delcourt en version papier pour 17,95€.
D'accord, donc ça vient d'un blog à la base, quoi.
Oui, pas forcément. Oui, on peut dire ça comme ça, du coup, oui. Ça sera plus simple. Donc, en fait, le Romain et Augustin, c'est un spin-off de la BD novella Les Autres Gens, qui a été fait scénarisé principalement par Thomas Caden et par après plusieurs dessinateurs pour chaque chapitre, c'était un dessinateur différent. Donc, là, en fait, dans Les Autres Gens, on suivait les péripéties de Mathilde Islemati. Et Romain et Augustin, en fait, se concentrent sur le frère de Mathilde, qui est gay, donc Romain. Et donc, en fait, on va parler d'une histoire d'amour, d'une demande en mariage, et des actions, des péripéties qu'il peut y avoir entre le couple et les personnes extérieures. Donc, comme je disais, la publication, ça a été fait sur le Nouvel Obs. Il y avait un chapitre par jour, et on avait...
Par jour ?
Ouais, un chapitre par jour, ouais.
Ça représentait combien de pages à peu près?
Bon, en fait, c'est sous forme de turbo média sur le Nouvel Obs.
Ah, c'était en turbo média, ouais. D'accord.
Et c'est quoi le turbo média?
Bah, en fait, c'est. Comment t'expliquer? Bah, t'as une image, tu cliques sur suivant et c'est comme si c'était des diapositives en fait.
D'accord,
pour faire simple.
Après, on peut jouer un tout petit peu avec ça pour faire un peu d'animation, mais l'idée de base, oui, c'est des diapos.
Oui, voilà, c'est ça. Bah, sur le site du Nouvel Obs, en fait, c'est vraiment comme. C'est vraiment présenté comme des diapos en fait. Donc en fait ça a été vraiment rédigé quotidiennement et publié quotidiennement, donc ça permettait aussi de rebondir sur des actions des pros et des anti-mariages pour tous, parce que c'était justement en plein cœur des débats.
Mais oui.
Donc comme je disais, il y avait un dessinateur principal, donc Didier Garguillo, qui publiait donc les 4 premiers jours de la semaine, un chapitre par jour, et ensuite il y avait une partie intermédiaire dessiné par Joseph Falzon le vendredi, qui laissait donc la marge pour le week-end pour avancer un peu plus pour la semaine qui allait arriver. Donc en fait, la partie principale, ça se concentre vraiment sur l'histoire, le mariage, les péripéties, les engueulades entre Romain et Augustin, les visions extérieures mais proches du couple, donc que ça soit les histoires avec Mathilde ou...
Ouais.
La recherche de la salle de réception. Et ensuite, en fait, la partie, ce qu'ils appellent la partie intermède, ça se concentre en fait sur la vision du cousin de Dimitri et de Dimitri, le cousin de Mathilde et de Romain, qui va apporter en fait une vision extérieure à leur histoire et au débat qu'il y a qu'il y avait actuel qu'il y avait au moment de la publication. Et en fait, d'accord, la partie intermède, ça va être plus comme un reportage vidéo avec, il y aura Romain qui va filmer sa compagne pour avoir son avis, les parents de chaque côté, donc de Romain et de Augustin, pour recueillir leurs avis sur leur mariage et sur les actions qu'il y avait à ce moment-là. Okay. Donc aussi après, petite anecdote, Dimitri faisait aussi partie des personnages qu'on pouvait retrouver dans les autres gens dans certains chapitres. Après au niveau des dessins, donc la partie l'histoire principale, donc c'était en couleur avec les couleurs, en fait c'était des couleurs pleines, il n'y avait pas de dégradé sur les vêtements ni rien, sur les cheveux, les décors, et il y avait souvent après pour les vêtements comme pour les chemises
des textures.
Ouais. Donc du coup on avait la chemise avec vraiment les carreaux toujours dans le même sens, même si on y levait le bras.
Voilà, c'est ce que je suis en train de voir sur les captures d'écran.
Et après donc pour la partie intermède, c'est du noir et blanc classique, assez réaliste quand même.
D'accord, mais avec un style de dessin complètement
différent. Ouais, après oui, c'est pas... Oui, ils ont... les deux dessinateurs ont un style complètement différent.
Mais vu que c'est des histoires un peu parallèles, ça doit bien passer.
Oui, voilà, bah après si on est habitué aussi aux entre-gens, on peut... On a l'habitude de voir deux dessins différents, mais pour la même histoire.
Et je vois par contre que ça fait un gaufrier très carré, vu que c'est du turbomédia au départ, d'images de toute la même taille, donc ça fait quoi, 8 cases par page.
Bah après j'ai pu parce que j'ai prêté la BD, j'ai pu sous les yeux, mais ouais ça fait après c'est du format BD classique. Il y a souvent des répétitions, il me semble que c'est du 8 cases normal.
Et est-ce que ça perd pas trop le fait de le passer en BD par rapport à la lecture en ligne qui était quand même prévue au départ pour du turbomédia? Non, ça passe
bah,
bien.
Non, j'ai pas ressenti de problème quand du passage au papier.
Ça se voyait pas que ça venait d'un.
Non, bah on voyait qu'il y avait souvent des motifs qui se répétaient. Et qu'il y avait juste soit plus de bulles dans la même case et on passait un nouveau plan, ou il y avait des bulles différemment.
D'accord. Ça sent un peu le copier-coller sur certains trucs, j'imagine.
Oui,
Mais du coup, ça a bien marché comme BD ? Enfin, ça se retrouve partout ? Parce que là, si je vais à la FNAC, je peux l'acheter, ou c'est vraiment petite publication ?
Normalement, oui. Je sais que moi, personnellement, j'ai eu du mal à la trouver. Et du coup, j'ai tweeté à Thomas Caden pour savoir si lui, il avait des informations sur la distribution.
Des dispo.
Et il cherchait aussi s'il y avait d'autres problèmes d'approvisionnement ou de mise en rayonnage.
Et est-ce que le résultat dépasse un peu le fait de te faire ça? Enfin, est-ce que ça dépasse l'actu, si j'ose dire? Est-ce que c'est vraiment...
Est-ce que c'était pas juste un prétexte pour faire une idée?
Non, ce que Thomas Caden a voulu faire, que j'ai lu après dans une interview, c'est vraiment une histoire d'amour intemporelle qu'on peut toujours avoir. Donc le couple, pas qui se rencontre, mais qui fait sa demande. Les péripéties entre les deux. Et le mariage qui peut arriver ou pas à la fin. Parce que j'ai pas envie de spoiler du coup.
Mais du coup, tu me disais que c'était... Parce que tu devais être là pour les rétrospectives, mais bon... T'as pas pu venir. Tu me dis que c'était ton top, ton coup de cœur vraiment de 2013.
Oui, parce que du coup, c'était, même si l'histoire est intemporelle, en fait, c'est bien ancré en 2013 grâce au débat sur le mariage pour tous. Donc pour moi, ouais, c'était. Et puis même l'histoire à côté, même si ça fait un peu cuculapraline ou fleur bleue, c'est une histoire d'amour, on suit les aventures et. Voilà, c'est à mon avis Thomas Caden a vraiment une expérience où vraiment il arrive à faire en fait des histoires avec des personnages attachants, et en fait c'est vraiment feuilletonnant à chaque fin de chapitre ou à la lecture quand je lisais quotidiennement.
Ouais.
On avait envie de lire, merde, qu'est-ce qui se passe après, comment il va répondre, comment il va réagir.
Ah oui, un peu comme l'époque où les BD étaient dans les revues et que à la fin de chaque paquet de pages, il y avait un cliffhanger. Quoi.
C'était pré-publié comme ça, oui, voilà.
Et du coup, vu que c'était publié sur un blog, tu avais souvent des commentaires, j'imagine, directement. Est-ce qu'il y avait des... Enfin, j'aimerais bien savoir l'opinion des anti-mariages gays sur la BD. Je sais pas si t'en as vu ou pas. Juste par curiosité, quoi. Faut jamais lire les commentaires, de toute façon.
Ouais, il a répondu à une interview sur 9e art.fr. où justement il revenait là-dessus que forcément il y avait des détracteurs du mariage.
Mais oui.
Et du coup je crois par moments ça l'amusait, des fois ça amenait un petit peu de l'eau au moulin pour débattre et voilà.
Est-ce qu'il lui arrivait de changer un peu son son scénar ou ses idées au fur et à mesure des retours des gens, tu sais pas?
Je pense pas, à mon avis, il avait quand même un peu les idées claires, même si après il alimentait par les réactions dans les intermèdes. À mon avis, il a dû procéder comme ça.
Ah, c'était dans les fameux intermèdes où il devait rebondir dessus. Ouais, puisqu'il faisait ça souvent, d'interview. C'était la bonne
chose. Oui, et puis du coup, on voyait vraiment des actions. Par exemple, il y avait le Taubira qui faisait un discours ou une manifestation. On voyait plutôt ça dans la partie intermède, même si on voyait aussi un petit peu dans l'histoire principale, parce que du coup, il fallait forcément faire un petit peu écho à ce moment-là.
Et le mec qui a fait ça, c'est un habitué des BD de 12 heures
De ce que j'ai lu de lui, donc il y avait les autres gens, où c'est pareil, c'est la première BD novella, terme inventé expressément pour ça. Chaque chapitre était dessiné par un nouveau dessinateur, même si plus ou moins connu.
Il y a eu des grands noms en plus.
Il y a eu du Vives, je crois pas qu'il y ait du Boulet, mais il a fait la préface.
La préface
du premier tome,
Disons que j'ai tellement de choses à acheter en ce moment que...
C'est ça qui est un petit peu énervant avec la culture, c'est qu'on fait « Ah, ça, ça a l'air d'être bien, faut que je lise et tout », et puis après « Ah, bah, il y a ça aussi, ».
Parce que j'ai déjà un carnet de coloriage à acheter, et je sais que je vais me faire engueuler si je le prends pas.
Oui, enfin, c'est aussi, oui.
Non, ça peut être vraiment pas mal.
Et aussi, du coup, ce que je voulais revenir aussi, c'est sur, pour les autres gens, en fait, le Romain et Augustin, c'est un spin-off, donc c'est une série dérivée de la série principale. Et donc du coup, en fait, ça se passe quelques temps après les autres gens. Donc du coup, après, si on n'a pas lu les autres gens ou qu'on a commencé à le lire, on a forcément des spoils, on a des informations qui étaient un petit peu l'intrigue dans les autres gens, que là, on découvre de but en blanc. Mais après, comme c'est un spin-off, on n'est pas obligé de lire, d'avoir lu les autres gens. On peut directement entamer avec Romain et Augustin.
D'accord. Sounds good. Parfait, donc tu conseilles, toi?
Oui.
Coup de cœur de l'année 2013 en plus. T'as cité Boulet. Vous avez vu 24 heures de BD? Enfin, je vais juste en parler parce que c'est.
Oui, j'ai vu le sujet était pas mal. Après, j'ai pas vu ce qu'ils ont fait. Mais aussi.
T'as pas vu la réaction de Boulet parce qu'il était derrière?
Non, mais j'ai juste vu la réaction sur Twitter.
En fait,
juste pour expliquer.
Vas-y.
En fait, 24 heures de BD, c'est un concours où des auteurs de BD viennent faire une BD en 24 heures sur un sujet préétabli. Et le sujet de cette année, c'était faire une BD à partir des 90 dernières photos d'Instagram de Boulet, voilà, qui était présent au moment
de l'annonce
du sujet. Et c'est génial. Je mettrai la vidéo dans le post du blog, mais c'est marrant à voir. Voilà. Bon, très bien. Merci Azertov.
De rien.
Très bien. Romain, ça va être à toi. J'espère que tu es prêt.
Absolument.
On s'écoute. Bon, j'espère que je me suis pas foiré, c'est bien le thème du dernier film,
oui,
c'est ça?
Oui, je reconnais. Ouais, je reconnais, pour l'avoir vu hier soir, je le reconnais. Encore.
Je pense qu'il est quand même bien.
C'est de la musique, un peu...
Épique.
Un peu épique, ça passe partout, quoi. Alors moi, je vais revenir, juste avant de parler du film, je vais revenir un peu sur le personnage d'Albator.
Je connais rien.
Il faut savoir déjà, pour les petits nouveaux qui arrivent, que Albator, en fait, il a été créé en 1969, donc ça fait quand même... un petit moment. Donc il a été dessiné et créé par Leiji Matsumoto. Et ce qui est drôle également, c'est que Albator, en fait, au Japon, ce n'est que 5 tomes, 5 mangas, en fait. Donc ce qui paraît très peu par rapport à la production animée qu'on a eue par la suite. Je pense notamment, on a eu forcément la première série qui arrive en France, Albator 78, Albator 84. Il y a d'autres séries qui sont venues après, dont une déclinaison façon western, qu'on retrouve un peu dans le manga aussi, mais qui s'appelle Gun Frontier. Donc vraiment énormément de choses.
Il y a la jeunesse d'Albator en film aussi.
Exactement. Il y a eu même par rapport aux séries que je viens de citer, par exemple Albator 84, il y a eu un film aussi qui a été fait, même si à l'époque, souvent les films, c'était des concentrés d'épisodes de la même série. Alors on avait un peu oublié Albator, même si ça reste toujours, on va dire, en France un phénomène exceptionnel, hein, puisqu'il reste toujours un des symboles des années 80, ne serait-ce qu'en termes d'animation pour la jeunesse, alors chose qui est aussi intéressante, c'est qu'on avait un peu oublié, c'était un peu passé de mode, on va dire, sauf Sauf que sont arrivés les Daft Punk, et sauf qu'est arrivé également le film Interstellar.
Interstellar
5555.
Exactement. Donc qui reprenait en fait l'album, l'excellent album Discovery, qui racontait une histoire en fait. Et l'histoire aussi était racontée par, par les images, et on reconnaissait forcément le chara-design, les personnages au dessin typique de Matsumoto. Donc ça permettait aussi de remettre en branle, on va dire, un peu la machine. Alors avant de venir sur le film, il faut savoir qu'il y a déjà, eu un projet de film au début des années 2000. C'était prévu pour être réalisé avec des vrais acteurs, et c'était prévu pour être réalisé par Olivier Dahan. Notamment, alors je crois qu'il a fait dernièrement, il avait dû faire La Môme, je crois, de mémoire. Enfin bref, du coup, ça c'est. Ils avaient énormément de mal à avoir les droits, mais finalement, le projet est complètement tombé à l'eau. Jusqu'à alors on va dire, cette sortie qui est sortie. En plus, le film est sorti en France, c'est marrant, le 25 décembre. Est-ce qu'ils attendaient un signe, peut-être ? Alors pour revenir donc pour l'histoire, alors l'intrigue, ça se déroule dans les années 2977, hein, donc dans le futur pour nous. C'est une époque en fait où les êtres humains ont colonisé tout l'univers. Il faut savoir qu'au début du film, on nous fait un speech par rapport à ça. Il y a en gros 500, si je ne dis pas de bêtises, au niveau de l'ordre de grandeur, 500 milliards de terriens qui sont un peu partout. Sauf que forcément, ils ont épuisé toutes les réserves, toutes les ressources à leur disposition. Donc ce qu'ils veulent faire, c'est revenir sur Terre. Sauf que forcément, déjà qu'on a du mal avec 6 milliards d'habitants aujourd'hui, alors avec 500 milliards, on imagine encore plus difficilement, on va dire. Donc forcément, ça amène un conflit. Alors derrière, il y a ce qu'on appelle la coalition Gaïa, une espèce de super gouvernement.
Sectaire.
Ouais, un petit peu. Qui reprennent les choses en main. Par contre, ce qu'ils décident, c'est en fait, ils font de la Terre ce qu'on appelle un sanctuaire éternel qui va être interdit à tous. Et forcément, Albator... Capitaine du vaisseau Arcadia, qui prône la liberté, souhaite retourner sur Terre et devient dès lors l'ennemi de la coalition Gaïa. Et donc forcément, voilà, la coalition Gaïa, son but aussi, c'est d'arrêter Albator, et notamment son projet qui fera en sorte que cette coalition disparaisse. Donc pour le coup, alors ce que la coalition va faire, c'est qu'ils vont envoyer un espion sur l'Arcadia, sur le vaisseau d'Albator, dans le but en fait d'assassiner Albator. Et donc cet espion s'appelle Yama, et on va voir qu'il a des liens, alors qui vont devenir très forts avec Albator, mais qu'il a aussi des liens avec la personne qui gère le conflit du côté de la coalition Gaïa. Alors première chose déjà, donc personnellement, je pense que je suis pas le seul ici. J'ai une jeunesse aussi où j'ai découvert Albator, où j'ai appris à aimer Albator. Donc
je connais pas du tout.
Mais moi aussi.
Enfin, si, mais moi aussi.
Après voilà, après plus tard.
Ça dépend les âges.
Exactement. Ouais. Après le DVD est arrivé aussi, donc on a pu redécouvrir ça à notre époque, évidemment. Alors chose qui est évidemment importante, c'est le fait de retrouver Albator. Ça c'est. Ça fait toujours, voilà, quand je suis arrivé, en fait, quand j'ai voulu aller voir le film, je me suis dit, j'ai juste envie de retrouver déjà l'ambiance de voir le vaisseau, l'Arcadia, qui est quand même magnifique. Alors par contre, du coup, pour ceux qui étaient habitués à regarder la première série, donc on ne retrouve pas les sites vides, hein. Donc c'était le peuple, espèce d'Amazon extraterrestre, parce qu'il n'y avait que des femmes, on va dire, dans ce peuple. Ouais. Alors, mis à part, on va dire, la personne qui permet à l'Arcadia d'avancer,
ouais.
Parce qu'il y a un système un peu voilà, lié sur la lumière noire, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça. La matière noire.
La matière noire, pardon. Oui, qui se matérialise en plus par la fumée. Voilà, donc on retrouve vraiment déjà, on va dire, on retrouve un univers, même si c'est pas celui vraiment qu'on avait connu aussi auparavant.
Ouais, c'est un peu une histoire parallèle, en effet.
Ouais. Ouais. Et je pense que déjà, par rapport à ça, on a senti, je pense qu'ils ont souhaité quand même remontrer en fait qui est Albator avant de remettre en place les ennemis naturels ou ceux qu'on a connus
auparavant.
Peut-être
pas un reboot, mais une bonne remise à plat, du coup, au final.
Exactement.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais.
Un peu à la manière de Sherlock Holmes, version Guiritti, où le premier épisode était un peu bon. On vous présente Sherlock Holmes, vous connaissez, mais bon, le méchant, il sert un peu à rien, quoi. Il a pas du tout de charisme, et c'est un peu le problème qu'on peut avoir dans Albator, c'est-à-dire que le méchant, on n'a aucune empathie vis-à-vis de lui, en fait, on a du mal à. Bah, on se dit pas, voilà, faut que Albator le descende absolument, on n'a aucun intérêt à ça, quoi.
Ouais.
C'est un peu ce qu'on peut lui reprocher. Alors, je vais d'abord quand même parler des choses qui m'ont plu, déjà, c'est la 3D, parce que en ce moment, en fait, on va dire, il y a quand même beaucoup, beaucoup de films d'animation en images de synthèse. Et ouais. Par rapport à ce que les Japonais nous avaient prouvé, entre guillemets, vis-à-vis de la 3D, de la gestion de la 3D, c'était assez...
Alors, quand tu veux dire 3D, ça veut dire l'image de synthèse, pas,
absolument,
la,
non,
pas le relief.
Absolument, pas l'effet de profondeur.
D'accord, on est d'accord.
Et pour le coup, par rapport à... Voilà, quand on compare, je sais pas, par rapport aux productions Pixar, il y avait vraiment un gouffre entre les deux. On a toujours l'impression d'avoir, sur les anciennes productions en 3D, d'avoir une espèce de, comment dire, une espèce d'effet d'apesanteur où les personnages ils bougent pas de la bonne façon, les textures sont un peu grossières. Et là, par contre, sur Albator, j'ai trouvé vraiment un véritable gap. Alors, je parlais de la fumée noire tout à l'heure, de l'énergie, de la matière noire, ouais, qui se matérialise par rapport aux effets de fumée. Je trouve que les effets de fumée sont magnifiques. Il y a des choses comme ça qui sont vraiment super bien rendues. C'est très propre. Alors, il faut savoir aussi derrière que le réalisateur, donc il s'appelle Shinji Aramaki, pardon, il va peut-être pas vous dire grand-chose, mais lui, par contre, a l'expérience des films en 3D, des films en images de synthèse, pardon,
ouais,
puisqu'il s'était occupé des adaptations cinéma d'Appleseed, hein, des deux films. Il s'était occupé aussi d'une adaptation de Starship Trooper en images de synthèse également.
C'était moins réussi, ça, déjà.
Oui. Et d'un segment du film de l'omnibus Halo Legend, qui...
Ah, je l'ai pas vu, ça.
C'est un peu le même principe qu'avec Animatrix, sauf que c'est dans l'univers, voilà, d'Halo.
Ah, d'accord.
Voilà.
Okay. Quand tu parles de l'animation, mais il y a quand même... je trouve que sur l'animation des personnages, il y a encore un truc qui est un petit peu en retard, je trouve. Autant j'ai trouvé le CG, le character design, assez sympa, sauf certains personnages, mais je trouve que l'animation, il y a encore des progrès à faire par rapport au grand. Je sais pas ce que t'en penses.
Il y a toujours, je trouve, une rigidité peut-être dans
une
les personnages.
Une rigidité, voilà, c'est ça.
Qui peut être flagrante. Alors en plus, je trouve qu'ils ont une façon de tourner très japonaise, c'est-à-dire qu'ils vont faire des gros plans des fois sur des visages. Je vois pas forcément trop l'intérêt, mis à part le fait de vouloir, on va dire, être dans le feu de l'action. Alors, ouais, autre chose, justement, je rebondis par rapport à ce que tu disais. Je trouve justement que, par contre, la 3D, dans un sens, a quand même réussi à retranscrire de manière assez fidèle le chara-design de Matsumoto. Parce qu'on va dire...
Oui, c'est ça. Je trouve que, à part un ou deux personnages, qui, je ne sais plus comment il s'appelle, le second d'Albator.
Oui, quand je le regardais, en fait, ça me faisait penser au film Tintin en image de synthèse. Il me faisait penser au Capitaine Hook.
Oui, il y a un côté pas la bonne taille, quoi. Voilà.
C'est ça. Après, les personnages féminins sont très bien, sur l'image de ce que faisait Matsumoto. Albator, pareil, on retrouve...
Filiforme, tout ça.
Exactement.
L'oiseau est splendide.
Exactement aussi, ouais. Là-dessus, ils ont vraiment respecté complètement le travail de l'auteur. Je ne sais plus ce que je voulais dire, excusez-moi. Par contre, le problème vient du rythme, en fait. Ce que j'ai vraiment eu du mal, c'est... Alors, le film est assez long, il dure 1h50. Alors, 1h50, ça peut être long comme ça peut être pas long. Hein. Si le film s'enclenche bien, si tout se passe bien, voilà, on voit pas le temps passer jusqu'au générique de fin. Par contre, au niveau du rythme, voilà, ça commence, on va dire, avec une bataille assez... qui fait office d'apéritif, entre guillemets. Mais pour le coup, derrière, on tombe sur un faux rythme, en fait, qui est assez, assez gênant, oui et non, parce que ça fait partie du film, on découvre un univers aussi. Le souci, c'est que le temps imparti au personnage secondaire aurait dû être mieux développé, dans le sens où on n'apprend pas grand-chose des personnages secondaires, justement.
Ah oui, ça c'est vrai qu'ils sont plus là pour les faire valoir qu'autre chose. Ouais.
Exactement. Et c'est un peu ce que j'ai trouvé dommage vis-à-vis de ça. Parce que voilà, on a quand même un background qui peut être vraiment très très intéressant, même si ce sont des personnages qui ont été créés spécialement pour le film. Ouais. Hein, je pense notamment aux méchants. On découvre un peu ce qui lui est arrivé, parce que en fait il se retrouve paraplégique. Bah, il est paraplégique au moment où,
ouais,
on le voit pour la première fois. Mais ouais, pour le coup, voilà, tout, on va dire, les liens avec Yama sont expliqués, mais on va pas suffisamment loin, justement, pour donner justement plus de charisme et plus d'intérêt aux méchants. Et c'est un peu ça qui peut être dommage pour une production de ce type. Autre chose, alors qui est aussi important, c'est par rapport au combat dans l'espace. C'est-à-dire qu'on a des combats qui manquent, ils manquent d'intensité, c'est trop bref en fait. On se dit, on attend voilà des grandes batailles entre l'Arcadia et la flotte Gaïa, mais finalement il n'y a pas grand-chose qui se passe. On passe tout de suite sur une intrigue qui retourne à l'intérieur du vaisseau et voilà, je trouve que là-dessus ça manque d'impact
Ouais.
et ça aurait pu aller plus loin.
Dans la série animée, il y avait beaucoup de batailles comme ça?
Mais c'est pareil, il y avait un peu ce problème de rythme aussi dans
Ouais.
la série. Il y a beaucoup d'épisodes comme ça, un
Ouais,
peu
d'accord.
lent, machin. Donc en fait, on retrouve un peu ce défaut-là aussi. Ouais.
D'accord.
Ce qui est intéressant aussi de comparer, c'est en termes de budget, ils ont fait quand même très fort, hein, parce
Ouais.
que Albator, il n'y a que 30 millions de budget. Alors, à notre échelle, c'est énorme.
Mais pour un film en
Pour un film
CG,
d'animation, c'est très peu.
ouais.
Pour vous rendre compte, en fait, La Reine des Neiges de Disney, c'est 150 millions d'euros. Donc on est trois fois plus, sur un budget 5 fois plus important pour la Reine des Neiges que pour Albator. Donc là-dessus, il y a quand même aussi, d'un certain côté, on va se dire, bon, bah, même si forcément les gens ne connaissent pas le budget, c'est pas l'intérêt quand tu vas voir un film de connaître quel est le budget du film, parce que ça serait si les plus gros budgets étaient les meilleurs films, hein, évidemment.
Mais ça permet quand même de relativiser les défauts
Exactement.
d'animation, entre autres. Oui.
Exactement. Alors, l'intérêt aussi par rapport à l'animation, je reviens 2 secondes là-dessus, c'est qu'ils ont fait appel à la motion capture, hein, ce qui a pu donner des mouvements plus intéressants aussi, on va dire plus crédibles, hein, pour arriver au résultat qu'on a eu devant les yeux, quoi. Alors, je l'ai pas vu en image de synthèse, je l'ai pas vu en 3D. Par contre, j'imagine j'ai vu quelques séquences qui ont été faites vraiment pour
Ouais.
montrer qu'on avait des lunettes pour voir la 3D, justement.
Alors moi j'ai pas eu de chance parce que c'est la deuxième fois que ça m'arrive de voir un film en relief, mais où la salle est mal réglée, c'est-à-dire que
Ouais.
t'as des images fantômes de chaque œil.
Ah oui, alors ça.
Donc
Oui.
ça gâche toute l'expérience 3D et ça te fait mal à la tête. Et donc pour ça, ça m'a un peu gâché le film. Donc,
Ah oui, tu
je peux pas trop
m'étonnes,
te
ouais.
répondre là-dessus.
Alors, moi, pour une petite anecdote, c'est qu'hier, donc moi, je suis dans une salle avec. Donc, il y a deux salles différentes, ils s'étaient trompés de salle. Donc, ça commençait, c'était pas un film d'animation, donc on se dit, oh là, il y a un problème. Et du coup, on a fait l'échange entre les salles. Donc,
Et
rien de
tout le
méchant.
monde a changé de salle,
Super.
c'est ça?
Exactement.
Oh là là,
Exactement.
c'est...
Il y avait quoi? Il y avait 20 personnes au total, donc c'est pas non
Ah bon,
plus.
d'accord,
Ils ont arrêté le film et puis ils ont remis au début. Tout était
ok.
calé pour en profiter. Alors, pour terminer, alors j'aimerais dire, moi je suis un fervent amateur de films d'animation, donc dès qu'il y a un film d'animation au cinéma, j'ai envie de dire aux gens, allez-y, allez voir ça. Alors en plus, quand c'est Albator, ça permet de se dire. En fait, moi ce qui est marrant, c'est que ça m'a redonné envie de relire le manga, de regarder les productions animées, les anciennes séries qu'on connaissait, parce que ça, il y a plein de
Ouais,
choses,
pareil.
plein
Puis
d'éléments
il y a
qui.
aussi des séries que j'ai pas vues du tout, comme L'Anneau des Nibelungen, un truc comme
Oui,
ça,
en plus, c'est.
qui est basé sur Faust.
Justement, l'anneau des Nibelungen, c'est cité dans le film. Hein.
Oui, il
Dire,
en parle pour le moteur, quoi, en fait.
y a plein de, y a plein de, comment
Le
dire, de clés de
parallèle.
compréhension qui sont à voir en fait en dehors, dès qu'on a fini de voir le film au cinéma, qui
Ouais.
permettent aussi d'étendre davantage l'univers. Parce que, en fait, finalement, c'est un univers qui est extrêmement, extrêmement vaste, en fait. Parce que, comme je disais, Albator, en fait, il fait des apparitions. Alors, il a son manga, ses 5 tomes de manga. Qui ont permis de mettre en place le héros. Par contre, il apparaît aussi dans d'autres mangas de Matsumoto. Alors, par exemple, je pense à une série qui est sortie en France qui s'appelle Galaxy Express 999, pour lequel voilà, il fait quelques apparitions. Et ce qui est marrant d'ailleurs, puisque 999, c'est son numéro d'identification dans le film. Donc, je pense
Il y a du
qu'il y a
clin
eu
d'œil, quoi.
exactement. Ça a été fait exprès. Alors, par contre, voilà, c'est un film. Je conseille vraiment aux gens d'y aller, ne serait-ce que pour se remettre dans l'univers d'Albator. Par contre, ça manque vraiment, je trouve, d'envergure par rapport à ce que ça pouvait mériter au niveau de l'histoire, au niveau des méchants. C'est pas très original en soi, mais voilà. Pour le coup, ça fait partie des. Si vous êtes féru d'animation, si vous aimez le personnage d'Albator, le côté pirate et le côté. Comment dire, parce que lui, par contre, il a quand même énormément de charisme. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'au début, on l'entend très très peu parler.
Bah,
Mais
dans le film, la série non plus, il était pas forcément bavard, tu vois,
oui, c'est
donc c'est
vrai,
ça qui est
ouais.
bien.
Et voilà, pour le coup, ça permet de le redécouvrir. Et le film aussi montre de quelle façon il se retrouve avec un bandeau sur l'œil. Voilà,
Ah.
il y a plein de
Par
choses.
contre,
Ça.
ouais, bien ça.
Moi, tu vois, je pense pas que quelqu'un qui n'a pas connu Albator et qui est pas fan d'Albator va apprécier le film. Je pense qu'il a, il a trop de défauts pour passer ça, à mon avis.
Je suis justement en train de me poser la question.
À mon avis, il a un peu trop... Enfin, c'est mon opinion. Moi, je pense qu'il a trop de défauts de scénario, surtout.
Ah oui, tout à fait.
Pour intéresser les gens qui seraient pas fans du personnage.
Oui, voilà. Bah, moi, c'est vrai que là-dessus, j'ai le prisme du fait d'avoir vu...
Pareil,
voilà, tu regardes toujours les choses d'une autre façon, parce que t'as le souvenir
un coup de nostalgie en plus.
Ouais, ouais, c'est ça. Alors que je suis sûr, moi, ça fait longtemps que j'ai pas regardé la série, mais je regarderai la première série, je dirais, mais c'est mal animé, c'est ouais, chiant.
En plus, je crois que celle de 78 pique un peu les yeux.
Ah ouais. Complètement, ouais. Même celle de 84 est un peu mieux réussie, parce qu'elle est plus contemporaine. Mais pour le coup, faut peut-être davantage aller sur les séries qui sont sorties donc il y a pas longtemps. Il y a la jeunesse d'Albator, il y a... Ouais.
Ça s'appelle pas la jeunesse d'Albator, ça s'appelle...
Cosmo Warrior Zero, c'est pas ça ?
Non, la jeunesse de je sais plus quoi.
Oui, parce que Harlock, alors, ça doit être la jeunesse d'Harlock, ou de Captain Harlock, parce qu'en fait, Harlock, c'est le nom original, c'est-à-dire que nous c'est Albator.
Ouais, d'accord. Ouais.
Tu sais pourquoi ils l'ont appelé comme ça ? Enfin, oui, Cosmo Warrior, jeunesse d'Albator, Cosmo Warrior Zero, mais il y a eu un autre film qui s'appelait la jeunesse de mais je sais pas quoi, qui était l'histoire de l'ancêtre d'Albator.
D'accord. Et The Cockpit aussi, okay. qui devait être aussi en rapport dans pour la Seconde Guerre mondiale. Et petite anecdote, pour ceux qui ne connaissent pas Albator, le chanteur du générique du générique de début d'Albator, c'est Eric Chardin, donc du fameux Stoney Chardin. Voilà.
Oh là là.
Mais il était connu, en fait, son nom apparaissait, mais sous un pseudonyme. Donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire le rapprochement entre les deux.
Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il s'appelait Harlock au Japon. Ils l'ont voulu le changer, je ne sais plus pour quelle raison, mais ils l'ont appelé Albator parce que c'était un mélange c'était un mélange d'un nom de footballeur, je crois, parce que celui qui a choisi le nom aimait beaucoup le foot.
D'accord.
C'est le nom d'un footballeur qui a donné le nom de Albator. Ils avaient peur que les gens confondent Harlock et Haddock.
Ah, d'accord.
Ah, oui, d'accord.
C'est bête, hein.
Mais c'est vrai.
Juste une dernière question avant d'embrayer. Je me trompe pas, le film est passé en avant-première aux Utopiales, c'est ça ?
Je crois que oui. Alors il me semble, ouais. Ouais, à Nantes, hein, c'est ça ?
Bah ouais, enfin il me semble que j'avais vu ça, qu'il était passé aux Utopiales et que c'était vraiment la folie pour essayer de trouver une place et de le voir.
Bah, il n'y avait pas grand monde quand je suis.
Comment dire, il y a un facteur nostalgie alors qui.
Oui.
Over 9 minutes, quoi, j'ai envie de dire.
Tu m'étonnes. Très bien, bah merci.
Et puis tiens, si vous voulez plus d'infos sur Albator, il y a le podcast 80s qui en a consacré un épisode.
Très bien, bah merci. Et on va passer à Matt. Je lui ai fauché le tour, je suis vraiment désolé. Je lui ai piqué son tour.
Ah mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Confondre 2 et 3, ça m'arrive tous les jours.
Oui, moi aussi. Bon allez, ça va être à toi. Qu'est-ce que c'est que ça alors ?
Ah oui, je vois que tu m'as bien préparé mon entrée. C'est directement l'intro de Orphan Black. Donc je vais vous parler de deux séries 2013, hein, donc Orphan Black et Masters of Sex. Et on va commencer d'ailleurs par Orphan Black. Alors le pitch, enfin c'est pas Pitch Black, hein, c'est bien Orphan Black.
Ça y commence.
Donc on suit une demoiselle d'une vingtaine d'années, un peu paumée, dans tous les cas complètement instable et pas toujours en accord parfait avec la légalité et la moralité. Elle revient près de son frère et de sa mère adoptive après plusieurs mois d'absence, mais à son arrivée à la gare, elle est témoin d'un truc de ouf. Une demoiselle dont elle a juste le temps de croiser le regard et de s'apercevoir qu'elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau, se jette sous un train carrément sous ses yeux.
C'est bizarre.
Ça fait sprouch, un peu comme ça.
Ça fait plouc.
Voilà. Donc bon, pas une dérobade près, notre héroïne pique le sac de la meuf nouvellement morte et se casse. Du coup, elle va être amenée à s'immiscer dans la vie de la personne dont elle a pris, au sens propre comme figuré d'ailleurs, l'identité. Et pas de bol pour elle, elle se retrouve détective en pleine tourmente.
Ok.
Donc voilà, bon, à côté de ça, ça s'arrête pas là, hein, parce que ça joue pas du tout dans la case policier classique, on en est vraiment très très loin. En revanche, elle va s'apercevoir que d'autres personnes lui ressemblent de très très près, et que malheureusement leur sort à toutes semble menacé. Alors, je vais voilà, à dessein, rester très vague sur, le, sur la description de la série, parce que j'ai vu des résumés Wikipédia et des résumés Allociné, pour ne pas les citer, qui sont très...
très
qui te spoilent limite 2-3 épisodes,
ouais,
quoi. Franchement, c'est... tu débarques très vite dans le spoil, et les 2-3 premiers épisodes sont vraiment très très bons, alors je vous conseille vraiment de les regarder si vous êtes du moins intéressé.
Est-ce que c'est parce que la série est trop lente à se mettre en place?
Ah non, vraiment pas. Vraiment pas. En plus, bon bah voilà, cette série, moi je l'apprécie énormément pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est dans une série canadienne avec des personnages principaux qui viennent d'Angleterre. Donc on a à la fois une maîtrise exceptionnelle au niveau du rythme qui est vraiment très américaine, bon, même si c'est canadien. Le suspense, il est vraiment haletant. Il y a énormément d'intrigues qui s'entremêlent sans que ça s'entrechoque de façon voilà, perturbante. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et de l'autre côté, on a aussi des personnages super intéressants comme ils savent très bien les faire dans les séries anglaises. Avec... voilà, ça je vais en parler juste après, mais voilà, donc c'est ce qui est sympa aussi, c'est que voilà, avec ces personnages anglais, t'as aussi l'accent délicieux des quartiers un peu oi oi quoi.
Oi oi.
Voilà. Et donc voilà, quand on parle de personnages, l'héroïne, elle a la lourde tâche d'incarner son rôle de personnage principal, mais également des autres personnages lui ressemblant.
D'accord.
Donc, elle accumule les personnalités différentes avec une facilité vraiment déconcertante. Chose que Keanu Reeves aurait bien du mal à faire, par exemple. Ouais, sauf, son, sauf si on lui repasse les sourcils au marqueur noir pour lui donner un air méchant. Limite, on peut avoir deux personnalités, quoi. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est vraiment une énorme performance d'actrice. Elle montre vraiment toute sa palette et d'expression. Et on a beaucoup parlé d'elle pour les Emmy Awards des séries en 2013. Au final, elle en a été complètement absente. Elle n'était même pas nominée, en fait. Mais franchement, je vous mets au défi de ne pas être bluffé par Tatiana Maslany. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Donc en dehors de ça, la série elle est assez mature. En tout cas, c'est parfois super malsain, avec du sang et des larmes, et du mélange de personnalités qui te mindfuck la tête. Mais vraiment tout le long, t'es à fond parce que tu veux savoir ce qui se passe, mais qui, mais quoi, mais où. Ça me fait penser au bon côté de Luther sur ce plan-là, le côté un peu malsain. Et puis bon, une série qui te balance Bad Girl de Maya au bout de 12 minutes du premier épisode peut pas foncièrement être mauvaise. Donc voilà.
J'avoue.
Vous l'avez
moi,
vu peut-être
j'ai vu, j'attends la saison 2 avec impatience. Ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment commencé au hasard, parce que j'ai vu le titre, j'ai vu que c'était que ça avait l'air sympa, et waouh.
Combien d'épisodes pour la saison 1?
C'est une saison de 10 épisodes de 45 minutes.
Oh, ça va.
Et une deuxième saison qui doit arriver sur Pirate Bay en avril 2014.
Non, sur la télé suédoise.
Enfin, le début, quoi. Voilà. Aussi.
Tire en prison.
Donc, voilà,
pour ça.
Personne d'autre l'a vu, a priori.
Non, non. Moi, je regarde toujours des séries qui ont au moins 13 ans, 14 ans de.
Comme ça, t'es sûr d'avoir la fin, c'est ça?
Comme ça, oui. J'aime bien me faire tout d'un coup, là. Tu vois, faut que je termine X-Files.
Ah, mais j'avoue que Orphan Black, c'était vraiment très sympa.
Ah, franchement, c'est mon gros coup de cœur de 2013. Donc, on va passer à l'autre série, c'est Masters of Sex.
J'ai pas de jingle pour Masters of Sex.
C'est pas grave, je pense que ça aurait été de mauvais goût, peut-être.
Parce que tu as triché, tu as pris deux sujets. Oh.
Deux sujets courts, ça passe.
Ça passe.
Voilà, c'est ça. Alors, dans Masters of Sex, il y a Sex et il y a aussi Masters.
Off.
Masters.
Off.
Ah oui, il y a Off aussi, mais c'est vrai, j'ai oublié. Masters, c'est William Masters, c'est un gynécologue de profession et de renom qui mène, en plus de son train-train quotidien, des recherches sur le sexe.
Son train-train quotidien, même.
Déjà, on est en quelle année, là ?
Train-train, ça recoupe avec Orphan Black, t'as vu. En fait, on est en 1957, donc c'est un domaine jusqu'alors vierge de toute étude sérieuse, et il va être rejoint dans ses recherches par une partenaire au profil pas du tout académique, pour le coup, mais non moins dévouée dans tous les sens du terme, d'ailleurs, Virginia Johnson. Alors, on va directement évacuer la critique standard du genre « Ouais, bah, Mad Men, ça a marché trop bien, alors toutes les chaînes américaines veulent leur série se déroulant dans les années 60. » Là, on n'est vraiment pas dans une série victime de la mode. C'est au contraire une aventure humaine hors du commun, puisque c'est une histoire vraie, en fait, qu'on suit. C'est vraiment un personnage qui a existé. Ces recherches, ça a été l'un des pionniers voilà, à faire des recherches sur le sexe. Bon, j'imagine que toutes les intrigues secondaires sont pas complètement authentiques.
Oui, sûrement.
Mais voilà, la trame principale est réaliste en tout cas. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'on les suit vraiment dans leur parcours. On se heurte avec eux aux deux barrières principales dans dans leur étude, c'est-à-dire le puritanisme acharné d'une partie des Américains et surtout des institutions. Et la deuxième, découlant sûrement de la première, c'est une quasi-totale méconnaissance du sujet. Pour vous donner une idée, l'un des moments les plus croustillants de la première saison, en tout cas, c'est le moment où Walters apprend de la bouche d'une prostituée qu'elle simule l'orgasme. Mais pourquoi ferait-elle ça, se demande-t-il? Bah tout simplement parce que comme ça, monsieur termine plus vite et elle est plus rapidement débarrassée. Donc voilà, enfin c'est quand même l'époque où il découvre des choses. Pourquoi une femme simulerait? Il savait même pas que ça existait à la base.
T'as aussi le
voilà.
moment où t'as deux patients qui sont avec le docteur Masters et pensent qu'ils peuvent avoir un bébé juste en se touchant la main.
Oui, c'est vrai.
Et voilà,
J'ai oublié.
exactement, oui. Ça représente bien le
Tu te demandes pourquoi ils ont
puritanisme.
toujours pas
Voilà.
d'enfants d'ailleurs.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, donc il leur explique que le contact physique à un autre niveau peut aider aussi beaucoup les choses. Donc voilà, c'est une série qui est beaucoup plus classique qu'Orphan Black, mais qui a beaucoup de qualités, dans laquelle tout ce qui est Amérique des années 50-60, ça ressort beaucoup sans que ce soit trop surligné non plus. Au niveau des intrigues, on a le suivi des recherches, mais on a aussi tout plein d'échos en fait sur leur vie personnelle et avec leur propre famille. Donc c'est assez subtil et malin, sans se prendre pour une série exceptionnelle. Pourtant, c'est vraiment une série exceptionnelle à certains moments clés dans la saison. Quand on parle de sexe, on parle aussi d'amour, de couple, et de ce côté-là, il y a une galerie de personnages très divers et une histoire qui évolue vite sans qu'on ait le temps de s'ennuyer, en tout cas. Mention spéciale au générique, qui, même si
Oui,
vous
très
ne vous
rigolo.
sentez pas attiré par la série, vous donnera peut-être l'envie de la voir. Péremptoire, je te donnerai le lien de la
Ouais.
vidéo et tu
J'aurais peut-être
pourras le
dû
mettre
faire
dans les notes de l'émission.
un jingle avec ce générique au final. C'est surtout
C'est
le
un
visuel
générique vraiment
canon.
fabuleux quoi. C'est tout en sous-entendu et ça montre bien que la sexualité elle est partout dans notre petit crâne, qu'on soit soumis à des images
Et ce qui est
innocentes ou
très
pas quoi.
étonnant, c'est le fait que bah, c'est très cru, hein, point de vue sujet, on va dire, point de vue image, mais c'est d'une subtilité assez étonnante.
Oui voilà,
Voilà,
c'est
c'est
jamais
ça.
vulgaire quoi.
Est-ce qu'il y a des scènes explicites comme on peut voir dans au hasard Game of Thrones?
Un petit peu moins explicite, mais quand même.
Oui, y a beaucoup de
Oui,
scènes
voilà.
explicites,
C'est dans le
oui, c'est
cadre
sûr.
scientifique, donc ça va
Mais
quoi.
c'est.
Ah ouais. Mais c'est très étonnant parce que c'est justement, c'est jamais vulgaire, tu vois. C'est très, très, très fort.
Ouais, franchement, enfin, je la trouve très modeste et il y a franchement des moments où, à des fins d'épisode, notamment la fin d'épisode avec Walters, je sais pas si vous voyez ce à quoi je fais référence pour ceux qui l'ont vu,
Oui, il y
mais
a deux trois fins de. Oui.
c'est vraiment cinglant, quoi,
J'ai l'épisode 5 qui me reste en
c'est
mémoire,
frappant, quoi.
je spoil pas, mais j'étais.
Ah, je me rappelle plus du numéro d'épisode,
C'est pas
ouais, je
facile,
pense que c'est
hein, ouais. Je
pense que
celui-ci.
ça
Je
peut
pense
pas
que
à ce
c'est
niveau-là, donc ouais,
celui-ci.
ça doit être ça.
Mais tout ça pour vous dire que franchement, ça pète pas plus haut que son cul, mais ça vaut vraiment le coup d'être suivi. Donc là, voilà, on est dans la série classique, une saison de 12 épisodes de 60 minutes.
Ah, c'est des épisodes
Oui, parce que c'est sur un channel
Mais.
privé, donc il n'y a pas
Ah
les
oui,
pubs et tout
d'accord.
ça, donc ils ont des épisodes plus longs.
Et juste pour
C'est rare.
parler 2 secondes du personnage principal, il me semble que c'est lui qui avait fait le journaliste dans le film Frost
Frost Nixon.
Nixon. Et
Ah,
moi,
peut-être.
je trouve vraiment excellent dans la façon dont il arrive à canaliser ses émotions, mais on sent
Ah ouais, c'est
que
ça,
le
il
personnage
est
est complètement
tout
contraint,
en
en fait.
retenue, c'est un truc de fou, ouais.
Il est assez impressionnant là-dessus, quoi.
Ouais, il est difficile à
C'est ça.
cerner, quoi. Enfin, franchement, ça vaut le coup d'être vu. Au moins pour le premier épisode, même si le premier épisode,
C'est pas le
perso,
meilleur, mais.
j'ai
Ah
pas tout de suite accroché.
bon, je commencerai peut-être par Orphan Black, quand même.
ouais. Mmh.
Ça m'intéresse
Plus actuel.
Là, le premier épisode, tu peux regarder le premier épisode, mais attends-toi à être accroché et à y passer plusieurs soirées d'affilée.
Ah, parce qu'il faut que je regarde Farscape, quoi.
Oui, Farscape, c'est le bien.
Merci Randall Flag.
Ouais,
Hein. Bon, bah très bien, bah, merci.
welcome.
Et on va s'attaquer au dernier sujet, ça va être toi, Randall Flag, et moi.
On fait
On
un
va
duo.
parler de
Ça
Hearthstone.
tombe bien, ça se joue à deux.
Non, je sais pas toi, mais ça me fait penser à un générique de série, je sais pas quoi. Enfin bref.
En tout cas, on est presque dans l'auberge, là, on vient de rentrer.
Une bonne shopping.
Je te laisse commencer?
Ouais, je vais commencer,
Allez, vas-y.
effectivement. Alors, Hearthstone, sous-titré Heroes of Warcraft, oui, donc c'est un jeu de cartes à collectionner en ligne.
C'est ça.
Dans le monde de Warcraft. Jusque-là, j'ai bon.
Jusque-là, tu as bon, j'en ai d'accord.
Par le fameux Blizzard Entertainment, jusque-là aussi, j'ai bon.
Auteur de Starcraft, Diablo et autres oui, Warcraft, voilà. Bien sûr.
Alors, il faut savoir que le jeu a été annoncé le 22 mars 2013. Ouais. Donc, alors, je me souviens, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une annonce du genre... une extension à Diablo 3 ou un truc comme ça.
Un Warcraft 3, on sait.
Un gros truc, ouais. Quoi. Et puis là, il y a Blizzard qui annonce un jeu de cartes en free-to-play. Et là, vraiment, réaction sur Twitter, je me souviens, c'était pas très très sympathique. Alors, le jeu est gratuit.
C'est un voilà. Free-to-play, en effet, ouais.
C'est un free-to-play. Et c'est pas un pay-to-win.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai trouvé d'intéressant là-dedans. C'est que t'as beau aller avec de l'argent réel, tu vas pas beaucoup, beaucoup gagner...
Tu seras pas gros bill.
Non,
quoi.
Tu seras pas gros bill. Non, tu peux pas. Tu peux pas tout acheter. On peut pas tout acheter dans ce monde.
Comment ça se joue? Bah, rapidement, on a trois modes de jeu. Un mode partie où on choisit son deck de cartes. Et après, on clique sur jouer. Et puis, bon, bah.
On fabrique son deck de cartes à partir de cartes qu'on a déjà débloquées.
Et donc, on clique sur jouer. Et puis, le jeu se charge de trouver un adversaire à notre taille. Un mode entraînement. Donc, ça, c'est contre l'ordinateur, l'aubergiste.
C'est ça.
D'ailleurs, c'est bien parce que c'est là que vous pouvez débloquer les autres héros. Parce qu'au début, on a que le mage. Mais bon, ça, on va y revenir. Et un troisième mode, mais je connais pas très bien le troisième mode de l'arène.
C'est un mode arène où, en fait, tu vas... Là par contre, tu peux avoir le nombre d'argent que tu veux, ça change rien, puisqu'en fait, ton deck, ouais. T'es imposé. Tu choisis une carte parmi 3, 30 fois, donc tu te retrouves avec un deck qui fait partie d'un pool commun, et tu vas donc affronter un adversaire réel qui aura aussi les mêmes contraintes que toi. Donc ça sera que le talent de jeu qui et la chance du tirage qui va changer. Tu n'auras pas de carte débloquée spécialement pour ça. Et par contre, c'est assez dur et tu dois faire au moins 3 parties. Enfin, au bout de 3 défaites, tu arrêtes. Et le nombre de parties que tu auras gagnées durant ce tournoi déterminera tes gains, qui seront sous forme de paquets de boosters de cartes, de poussière,
de pièces,
dont je vous parlais, et aussi de pognon. Des pièces d'or.
Pognon du jeu. Donc, comment ça se passe? Une fois que vous avez votre adversaire devant vous, le jeu commence, vous piochez vos petites
cartes.
Vous
avez 30 points de vie, puisque vous incarnez un héros.
Voilà. Et donc là, c'est du tour par tour. À chaque tour, on a un cristal de mana. Donc, à chaque tour, on gagne un cristal de mana
en plus. Au début, on n'en a qu'un.
Et grâce à ça, ça va nous servir à sortir des cartes, parce que chaque carte est déterminée par... un point de mana à utiliser. Voilà. Donc au final, au début, comme on a un cristal de mana...
On peut poser que des cartes qui ne coûtent un cristal de mana, ou zéro, et donc au début, forcément, on va attendre que la mana augmente à chaque tour.
Oui. Un peu brocouille au début. Et au fur et à mesure, on peut faire des bonnes combinaisons, on peut sortir des bonnes cartes puissantes, je pense notamment au Ragnaros.
Oui, alors attends, surtout, il faut préciser qu'il y a quand même 3 types de cartes. En fait, pour ceux qui connaissent Magic, on se retrouve dans un système beaucoup plus simple et beaucoup moins complexe qu'un Magic. On a 3 types de cartes. On a des serviteurs, qui sont des cartes qu'on va poser sur la table. Ils vont être actifs qu'au tour d'après, qui sont des combattants, en fait, qui ont donc des points de vie et des points d'attaque.
Ça dépend. Certaines cartes ont des capacités.
Ouais, voilà, on va pas entrer dans ce détail. Deuxième type de cartes, c'est des sorts, qui ont un effet buff ou offensif ou de soins, qu'on va poser soit sur des créatures, soit sur le personnage lui-même, puisqu'il a lui-même des points de vie et des capacités. Et des équipements, qui sont en général octroyés au héros, qui vont lui donner en général des forces d'attaque, des points d'attaque, qu'il pourra dépenser soit en attaquant le héros adverse, soit en attaquant ses serviteurs. Et le héros a lui-même aussi un sort particulier par classe de personnage. On parlait du mage tout à l'heure, qui a une boule de feu qui fait pas beaucoup de dégâts, mais
pas terrible.
Qui lui coûte pas grand-chose.
Cher pour pas grand-chose, je trouve.
Ben, l'avantage, c'est qu'elle peut tirer sur n'importe quoi. Enfin bon, ça, c'est les subtilités. Ouais. Alors évidemment, là, je vous ai fait les 3 cartes les plus simples, mais il y a évidemment des subtilités... Aussi un peu comme dans Magic en moins complexe, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui vont finalement, en plus de poser un serviteur, envoyer un sort au moment où elle se pose, des serviteurs qui n'auront pas à attendre le tour d'après pour jouer, des serviteurs qui viendront des cibles obligatoires, qui s'attirent l'aggro, on va dire, de l'adversaire. Et voilà, on va choisir un héros, donc on disait, c'est là où tu voulais en parler, des différents héros.
Ouais, donc au début, en fait, on a qu'un héros.
Il va falloir débloquer.
Ouais. D'ailleurs, juste, ouais, oh, oui, je vais en parler après. Donc, on a qu'un héros, la mage. On se retrouve à jouer avec que des cartes de sorts de mage, mais au fur et à mesure, quand on est en entraînement, on peut combattre les autres héros. Donc il y a chaman, druide, prêtre, démoniste,
chasseur.
T'en as 9, je crois. Ouais, le chasseur, il fait chier le chasseur. Oui, voilà, et donc une fois qu'on les a débloqués, on peut jouer avec le héros en question, et au fur et à mesure qu'on va jouer avec, on va gagner des sorts plus puissants, donc on va pouvoir se faire un,
enfin, des
un
cartes
deck
plus puissantes. Alors, faut aussi penser qu'il y a deux types de cartes, c'est qu'il y a les cartes... Il y a les cartes de base, que tout le monde peut accéder, quelle que soit la classe, et il y a les cartes de classe, qui sont des cartes réservées à chaque type de personnage. Donc en fait, votre deck va être un panache de ces deux... de ces deux trucs, les cartes de base et les cartes de classe.
Alors, il faudra que j'ai lu aussi, je ne sais pas si ceux qui ont joué, vous voyez dans le menu principal, il y a un quatrième emplacement pour un quatrième mode de jeu, vraisemblable. Apparemment, ce serait un mode de jeu aventure.
Oui, c'est ce qui est prévu, oui. C'est ce
que
j'ai
vu. On pourra gagner des cartes. Ouais, mais uniquement contre l'intelligence artificielle. Donc, je sais pas.
Un espèce de mode solo. Je ne sais pas encore comment ils vont faire ça, mais ça pourrait être sympa.
Sinon, les quêtes journalières. Bah,
oui, donc tous les jours, vous allez avoir une nouvelle quête qui va pouvoir être mise. D'ailleurs, récemment, ils ont fait qu'on peut annuler une des quêtes pour la remplacer, si jamais on en a trop et qu'il y en a une qui est trop compliquée à faire.
C'est bien ça.
Ça va être des quêtes du style tuer 3 fois un chasseur ou gagner 5 fois avec le druide. Le but du jeu étant de vous faire jouer et de vous faire gagner un peu de ces fameuses pièces d'or. Qui, donc, les pièces d'or que vous gagnez, vous en gagnez très peu, c'est-à-dire 10, toutes les 3 victoires, et entre 40 et 60 selon les quêtes que vous allez faire par jour. Donc, ouais. Si vous jouez beaucoup, vous pouvez par exemple facilement gagner 80-60 pièces par jour. Une fois que vous avez 100 pièces d'or, vous pouvez acheter, pour l'instant il n'y a que ça dans la boutique, qu'on peut acheter aussi avec de l'argent réel, mais vous pouvez acheter un booster, qui est un paquet de cartes, de 5 cartes tirées au hasard, dont une sera une carte rare, puisqu'il y a des cartes plus rares que d'autres. Il y en a au moins une qui sera rare, voire épique, ce qui est encore plus rare. Et c'est comme ça qu'on va un petit peu améliorer son jeu. Évidemment, on va tomber sur des doublons qui viennent s'ajouter à votre deck, mais de toute façon, on peut parer une seule carte. Si vous l'avez déjà, vous l'avez déjà, quoi. Donc ça ne changera pas grand-chose. L'autre moyen de dépenser votre argent, c'est de payer un peu plus cher, et pour l'instant, c'est ce qui est le plus intéressant à faire, c'est d'aller faire des tournois en arène. Le premier est gratuit, mais après, il faut payer 150, je crois.
Ouais, c'est 150, oui.
150 pour faire un tournoi, puisque même si vous perdez vos 3 parties dans un tournoi, vous allez gagner au moins un booster. Donc vous aurez perdu que 50 pièces d'or. Et un deuxième truc, qui sera souvent une 30aine de pièces d'or. Donc si vous perdez vos 3 parties en tournoi, vous avez perdu 20 pièces d'or, quoi. Et si jamais vous gagnez un peu plus, si vous gagnez 2 parties, là ça devient vraiment intéressant.
Alors dans l'ensemble, bah moi c'est vrai que je suis pas du tout intéressé par les jeux de cartes, j'y connais rien, j'ai déjà joué à Magic, mais bon voilà,
ouais,
c'est joué 2 parties.
À l'époque de sa sortie, pour te dire comme c'est vieux.
Et je connais aussi pas du tout l'univers de Warcraft, je connais rien.
C'est pas gênant de pas connaître l'univers de Warcraft, c'est vraiment un background, hein. ça aurait pu être du Starcraft, ça aurait été pareil. Mais,
ouais, tout à fait.
Alors, c'est vrai que bon, bah, je traîne souvent avec toi sur Mumble, et avec d'autres qui y jouent. D'ailleurs, j'étais dégoûté, parce que pile le jour où je décide de m'y mettre à cause de vous, Blizzard bloque la demande d'accès aux clés bêta. Ça, je l'avais.
Oui, parce qu'ils étaient en train de passer en bêta publique ou un truc comme ça.
Voilà, c'était la bêta ouverte le lendemain. Mais j'ai eu mauvais sur le coup, j'ai dit merde alors. Bon, alors ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est vraiment super simple d'accès pour un noob comme moi, en tout cas.
C'est ce que je trouve très sympa.
On te prend par la main dès le début, d'ailleurs dès que tu lances le jeu au début, bam, tutoriel. D'ailleurs, si vous êtes habitué à jouer à ce genre de jeu, prévoyez une bonne demi-heure parce qu'on peut pas passer le tutoriel.
Non, on peut pas passer le tuto.
Si vous voulez juste jouer genre 5 minutes pour voir à quoi ça rend, tout ça, bah non, prévoyez une bonne demi-heure pour faire tout.
Il est pas désagréable, tutorial, mais il est long.
Non, non,
il est très bien fait, mais
ouais, voilà.
Il est long.
C'est peut-être le souci pour les gens qui connaissent déjà ce genre de jeu. Donc les mécanismes.
Mais pour avoir joué avec des gens qui
connaissaient
beaucoup Magic, il faut bien faire attention parce qu'on n'a pas l'habitude des points sur les cartes, ça ne fonctionne pas du tout comme Magic, c'est beaucoup plus simple.
Oui, c'est pas pareil.
Oui, il y a plein de principes que tu dois réapprendre et du coup, c'est pas inutile de refaire le tuto.
Ouais. Ouais, il y a des moments où tu te dis quoi, c'est des points de défense et des points d'attaque. Non, c'est des points d'attaque et des points de vie. Déjà rien que ça change, et ça change la manière de jouer. Ouais.
Après le jeu, il est vraiment simple à comprendre, même au niveau deck building, enfin le fait de construire son paquet de cartes, moi c'est vraiment un truc qui m'intéresse pas, mais au final ça passe bien, c'est vraiment facile à faire.
Et surtout qu'il y a un truc qui est très bien fait, c'est la manière dont tu construis ton deck, il y a une manière semi-automatique, assistée de construire ton deck qui est très bien fait. T'as presque intérêt à faire ton deck comme
ça,
et ensuite de le bricoler.
Voilà, toi t'en as pensé quoi? Toi t'es à fond dessus.
Ah moi j'aime bien, je trouve que c'est le petit truc vidage de tête. Parce que justement c'est un peu casu sur les bords, et je pense que c'est moins profond qu'un Magic, on n'ira jamais aussi profondément qu'un Magic, mais il y a quand même quelques subtilités, donc on finit par s'y attacher. Il y a un côté, je vais faire une partie de belote, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas plus prise de tête que ça.
Ouais, c'est ça. Une petite voilà. partie tranquille.
Il y a encore quelques équilibrages à faire, mais Warcraft Blizzard est très fort là-dessus, donc je pense pas qu'il y aura de soucis. Ouais, donc il a tous les défauts de ses qualités, c'est-à-dire il est accessible, machin, tout ça, donc il est pas super profond, mais moi j'aime bien. Et il y a beaucoup de chance, en fait, finalement, sur les tirages. Et...
Tu peux être un noob complet, si tu tombes sur les bonnes cartes
au bon moment,
tu pourras gagner.
Oui, il y a beaucoup d'aléas qui ont quand même été retirés, ne serait-ce qu'avec la gestion des terrains dans ouais. Magic, qui est parfois catastrophique. Là, tu pioches plus de cartes inutiles. Ouais. Tu pioches
ouais,
toujours
tu
une carte
pioches
qui
beaucoup
va te servir
de cartes
à quelque
que
chose.
Tu pourras pas jouer en début de partie. Donc, t'as pas 4 ou 5 de mana, c'est-à-dire au bout du 4e ou 5e tour. Ça peut être des débuts de partie très difficiles. Et si tu démarres mal, là...
Mais après, moi, perso, j'ai vraiment adoré. Je faisais vraiment pas confiance à Blizzard là-dessus, pour le coup, mais je suis heureux d'être surpris agréablement. Et voilà, enfin, c'est un dépoussiérage complet de Magic en intégrant des principes, genre les cartes pièges, par exemple, qui ont des actions déterminées.
Cartes secrètes, tu veux dire ?
Lorsqu'une situation se produit, genre. Oui, voilà, ouais, piège, parce que je pense à Yu-Gi-Oh! En fait.
J'ai pas joué
c'était
à Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh! Qui avait inscrit ce principe-là. Ouais, non, mais ça m'a fait marrer de retrouver ça. C'est...
Ouais, mais ouais, il y a des cartes secrets qu'on planque, qu'on dit qu'il y a une carte à tel endroit et qui déclenche un événement, qui se déclenche à un événement. Voilà. En enlevant des points de vie, en détruisant un serviteur.
Ça compense le fait un peu frustrant de pas pouvoir jouer de cartes pendant le tour de ton adversaire. Ce qui, pour le coup, fluidifie beaucoup le jeu en
Et
ligne.
Ce qui est bien aussi par rapport à Magic, c'est la rapidité des parties. C'est 10 minutes une partie, à tout cas.
Oui. Ouais, ouais.
D'ailleurs, ils devraient instaurer un mode Blitz. On est plusieurs à y penser, c'est-à-dire à obliger de jouer en 20 secondes. Ça rendrait le jeu super dynamique et très marrant.
Non, excuse-moi, juste le problème du mode Blitz, c'est que moi, par exemple, au tout début, j'ai joué plutôt un deck contrôle, en fait. Un deck où ça ne dérangeait pas d'attendre plusieurs tours et de dominer la partie par la suite. Mais je me suis aperçu tout bêtement que, voilà, à jouer un deck qui prend trop son temps, bah, je joue très peu de parties et au final, je gagne moins d'argent que les autres. Donc au final,
ça pourrait être
deux
modes de jeu,
rapide,
quoi. Le mode normal et le mode Blitz, par exemple.
Très bien. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour, non ?
Oui, et puis vous pouvez y aller, la bêta est ouverte, vous pouvez monter. Et puis on n'a pas parlé de la concurrence, comme Scrolls, Urban Rivals, qui sont tous les jeux en ligne. Moi j'ai essayé Scrolls rapidement, déjà je suis pas fan du chara-design, et puis je trouve que c'est extrêmement compliqué à se mettre dedans. Et Urban Rivals, j'ai pas joué, mais je crois que c'est assez complexe aussi.
Urban Rivals, j'aimais bien le système d'évolution des cartes, qui était vraiment sympa.
Et il manque tout un volet de fonctions sociales par contre, bon ça va venir par la suite.
Il y a un chat, mais il est pas terrible. Ouais.
Oui, mais ne serait-ce que s'échanger des cartes ou autre,
je pense pas que ça va l'être.
Ça, je crois que c'est pas encore à l'ordre du jour.
Oui, ça serait bizarre,
enfin,
mais
bah, ce serait vraiment
tu vois rien qui a l'air d'être ça. Et je pense pas qu'ils vont nous faire un hôtel des ventes, ils ont été un peu échaudés sur l'histoire, donc...
On va finir là. Juste rappeler qu'il faut avoir un compte Battle.net,
voilà. Si vous voulez.
Donc, il faut avoir Battle.net, télécharger le petit logiciel et installer le jeu.
Via Battle.net, ça se fait tout seul.
Via Battle.net. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour, on va passer à la conclusion. Oh, ça va faire presque une heure
ouais,
pile, tu vois.
Hors
bon, c'est fini pour cette fois. Merci à vous d'être venus.
Je vous en prie.
Merci les invités.
Merci.
Merci à vous.
On va faire un petit tour. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Azertoff.
Alors, sur Twitter, à @Azertoff. Et sur aussi Planning Podcast, où je tweet un peu les lives des podcasts.
Ouais, t'as fait un super calendrier Google avec les lives des podcasts en cours. C'est très sympa. Ouais.
Tu es le télé-loisir du podcast.
Du podcast live.
À peu près, ouais, c'est ça.
Ouais, voilà. Romain.
Sur Twitter, donc, @Romain_F, comme la lettre F. Sinon, sur Art of Gaming, sur des dossiers et des tests. Donc, Art of Gaming, site spécialisé, pardon, sur le jeu vidéo. Mm-hmm. Et sinon, sur Podcastination, les intermittents du podcast, que j'anime avec mon compère Toontoon. Alors, c'est jeux vidéo, on parle manga aussi dans le bimestriel manga, puis on a une émission tous les mois spécialement sur l'animation, donc qui s'appelle Celluloid.
D'où l'animation ce soir.
D'où l'animation ce soir notamment, oui, tout à fait.
Voilà, que Matt commence à avoir un CV
oui,
3 km
Twitter,
de long aussi.
Non, juste sur Twitter, Matt Loves, et voilà, vous serez au courant de tout, peut-être dans Quid Novi prochainement.
Oula, tu t'avances toi, bonhomme.
Et ouais, je suis un ouf.
Et donc, on va terminer par Randall Flag et son CV de 3 km
de long. Sur gribouillon.fr, sur Twitter, Randall Flag avec un score. Qu'est-ce que je fais encore ? Je suis parfois sur lebidule.org, il faut d'ailleurs que je refasse quelques articles. Et voilà, et aussi il y a un podcast qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà ?
Ouais, je sais pas,
un truc comme ça. Ouais. Et oui, Queen Novice.
Non, c'est bien parce que je t'invite à chaque fois, comme ça, ça permet de faire la pub de Orcade. On n'a jamais fait autant de pubs pour Orcade que depuis que t'es là, en fait. Très bien, sinon, je vais lancer la fin de l'émission. Vous pouvez retrouver l'émission sur Twitter @les_éclaireurs, le site www.leséclaireurspodcast.wordpress.com et bien évidemment sur podcastfrance.fr. Et donc à ça, je vous dis à dans 2 semaines avec des tout nouveaux invités qui sont jamais venus. Ah, j'ai hâte, des petits nouveaux, nom. Donc à dans 2 semaines, salut.
Salut.
Ciao. Salut.